nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
La révolution numérique a ouvert un nouveau champ de la diffusion du savoir et des biens. Un nouveau monde pour demain, oui certes, mais à quelle échéance exactement ? Pour que nous n'en restions pas aux utopies numériques ou aux atermoiements de la bulle Internet du début des années 2000, l'association Renaissance Numérique propose quelques remèdes simples et un calendrier, faire en sorte que 80% des foyers aient un ordinateur, une liaison à DSL et que chacun soit formé à ces techniques d'ici à 2010. C'est dans 3 ans seulement et on en est loin. Ce livre, 2010, l'Internet pour tous, 15 remèdes pour réduire la fracture numérique en France, est un livre à la fois concret et utopiste, revivifiant et pragmatique, auquel vous avez contribué, François-Xavier Husser. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur associé au Benchmark Group et président de Renaissance Numérique. Qu'est-ce que Renaissance Numérique exactement ? Dites-nous.
Alors, Renaissance Numérique, c'est une association de loi 1901 dont l'objectif est de faire avancer le numérique en France. C'est-à-dire d'essayer de développer tout ce qui peut accélérer l'entrée de notre société dans cette nouvelle ère qui s'ouvre.
Et vous avez donc déjà publié plusieurs livres sur Internet, qui est votre cheval de bataille, notamment « Les nouveaux pouvoirs des internautes » et « 10 ans d'aventure Internet ». Alors on se souvient bien de la bulle Internet de 1999-2000. Cette bulle a éclaté. Où en est-on aujourd'hui ? Où est-ce qu'on en est dans le développement d'Internet au niveau économique d'abord ?
J'ai envie de dire que les fondamentaux de l'économie d'Internet sont sains. C'est-à-dire, autant on a eu en 2000-2001 une bulle spéculative où on a vécu une société qui s'introduisait en bourse alors qu'elle n'avait aucun chiffre d'affaires, donc une espèce de folie boursière temporaire qui s'est assainie. Donc après, on a eu 2001-2002, une période assez difficile. Et puis, à partir de 2003, les choses ont repris leur cours, j'allais dire de façon industrielle. Et 10 ans après, c'est 11 millions de foyers français qui ont accès à Internet. Donc là, maintenant, on est sur des fondamentaux sains, un grand nombre d'internautes. Et puis une économie saine avec des financements divers et variés par la publicité, par le commerce électronique, par la vente de contenu. Voilà, les modèles économiques se sont assainis. Donc on est sur une vraie industrie industrielle.
En croissance ?
En croissance très forte, puisque oui, le marché de la publicité, par exemple, croît de plus de 50% chaque année.
Alors, nous allons non seulement parler évidemment d'économie d'Internet, mais aussi de la diffusion du savoir sur Internet, qui est aussi le but de Canal Académie. Vous nous dites d'abord dans ce livre 2010, l'Internet pour tous, que la France est en retard. On n'a pas du tout conscience de ça. Enfin, moi, je n'en avais pas conscience. En retard sur l'équipement, non pas de l'équipement ADSL, mais du fait que, en fait, le pourcentage de Français qui ont réellement un ordinateur chez eux, une connexion Internet, est relativement faible par rapport à d'autres pays.
Oui, alors on se trouve dans une situation un petit peu paradoxale parce que d'un côté, les Français, la majorité des Français qu'on est en avance sur Internet, alors c'est une chose vraie. Vraie pourquoi ? Puisque on est la première nation quasiment au monde pour le déploiement du haut débit. C'est-à-dire 95% des foyers français qui sont connectés à Internet sont connectés en haut débit. Ce qui n'est même pas le cas, même dans les nations les plus avancées, comme les États-Unis, où on est encore plutôt à 70% des foyers qui sont connectés en haut débit. Et le haut débit change tout, c'est fondamental. C'est-à-dire, lorsque vous passez du bas débit au haut débit sur une connexion Internet, vous consommez 3, 4, 5 heures de plus, parce que ça n'a rien à voir comme expérience. Donc ça, c'est exceptionnel, les Français le savent, et c'est bien. Mais il y a un autre point, qui là, malheureusement, est plus négatif, c'est que en matière de foyers connectés à Internet, même si 100% des foyers connectés à Internet le sont presque tous en haut débit, on a seulement 47 foyers sur 100 foyers qui sont connectés à Internet. Et lorsqu'on se compare, par exemple, à des puissances européennes équivalentes, comme l'Allemagne ou l'Angleterre, on a des chiffres qui sont de 65 à 70% de foyers connectés en Angleterre et en Allemagne. Donc, presque plus de 20 points par rapport à la France, c'est presque 3 ans de retard. Donc, on a un énorme retard sur le taux de connexion foyer à rattraper Et ça, on ne le dit pas assez. Et donc, y a une vraie fracture numérique qui existe hein, entre ceux qui ont Internet et ceux qui ne l'ont pas. On n'est pas du tout dans un pays comme les États-Unis où 70%, c'est-à-dire la majorité de la population, est connectée à Internet. On est 19e pays sur l'Europe des 25, 19e pays derrière les Lettonie et l'Estonie. Voilà, donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire et il n'y a pas de raison, la France est un grand pays et donc il n'y a pas de raison que si la France est la 3e ou 4e puissance économique européenne, on soit 19e en matière de taux de connexion des foyers à Internet.
Alors, ce qui est amusant dans ce livre, enfin, ce qui est très intéressant, c'est que vous développez des idées très concrètes. On va en prendre quelques-unes. La donation directe de PC usagés par les entreprises à leurs salariés, PC neufs à coût réduit. Vous proposez des choses très concrètes pour que, effectivement, cette fracture numérique, qui est une fracture régionale, qui est une fracture générationnelle, puisse être comblée à court terme. Est-ce que vous vous voyez comme développement exactement d'Internet ? Comment est-ce que vous voyez le champ d'Internet se développer en France ?
Ben, pour que l'Internet se développe, la première condition, c'est d'avoir un ordinateur. Actuellement, on a 57% des foyers français qui ont un ordinateur. Donc, quand on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas d'Internet. Hein. Donc, première chose, c'est de réduire le coût d'accès à un PC pour que plus de gens puissent accéder à un PC. C'est la fracture de l'équipement. Et puis après, on a une fracture qui est la fracture de l'usage, parce que Internet, c'est pas comme la télé. C'est-à-dire la télé, c'est vraiment simple. On appuie sur un bouton et voilà, tout fonctionne. C'est merveilleux. Ordinateur, Internet, ça demande du temps, ça demande de la formation, ça demande d'être épaulé. Et c'est quelque chose de complexe à appréhender et qui fait peur. Et c'est assez logique. Donc il faut former les gens à l'utilisation. Donc c'est une fracture sur la formation et la capacité. Puis après, il y a plein d'autres fractures. La fracture géographique fait que même si on dit que 98% du territoire français est couvert, enfin des Français sont couverts par le débit, c'est pas vrai. Il y a des tas de petits villages à 70 km de Paris où on n'a pas encore la DSL. Donc il y a ce type de fracture là également.
Comment est-ce que, plus globalement, et puis je renvoie aux auditeurs, au livre pour voir ces détails, nous mettrons tout sur le site, évidemment.
Le livre est téléchargeable sur renaissancenumérique.org.
Évidemment.
Normalement, c'est logique pour un livre numérique.
Pour développer une réflexion un peu plus globale sur Internet, est-ce qu'il y a des champs de connaissances ou d'économie qui ne sont pas encore développés sur Internet ?
Des champs de connaissances qui ne sont pas développés sur Internet.
Ou des secteurs d'économie.
On arrive vraiment dans une phase où tout devient... Il y a vraiment de tout sur Internet. Alors, dans le monde de la connaissance et dans le monde, j'allais dire, des transactions. C'est-à-dire que je plaisante toujours en disant que un baptême a commandé nos dragées sur Internet. C'est un peu... J'y aurais jamais pensé, il y a 5 ans, trouver des dragées sur Internet... Quelque chose quand même de pas courant. Il y a tout. Donc on peut commander des dragées, des choses comme ça. De la connaissance, il y a également énormément de choses.
Qui demandent peut-être encore à être organisées.
Voilà. Alors après, le problème, c'est qu'on est noyé au milieu d'une information, que les informations sont pas hiérarchisées. Donc par moment, on arrive sur des informations qui sont mises en première, qui ne sont pas celles qu'on cherche, parce que, pour des raisons X ou Y, et puis des informations qui sont fausses. Mais globalement, ça se structure. On voit bien avec le succès d'un site comme Wikipédia. Wikipédia, c'est plus de 8 millions d'internautes chaque mois en France. En France, 8 millions d'internautes, c'est le 8e site français. Donc, on voit bien qu'il y a un travail qui se fait. Alors, même si ce n'est pas parfait, hein, Wikipédia est loin d'être parfait, il y a des choses qui sont fausses à l'intérieur, mais il y a un travail d'organisation qui se fait. Et puis, un peu partout, il y a des milliers de sites. Et finalement, on trouve de tout sur tout. Même pour la connaissance, on a énormément de choses.
On parle beaucoup, d'un point de vue polémique, de la police sur Internet. Où est-ce qu'on en est de cette idée-là ?
Comment dire ? Si vous voulez, Internet, c'est un outil. Donc, je compare toujours ça à l'énergie atomique. On peut faire avec Internet des centrales nucléaires qui servent à produire de l'électricité pour hauteur de, je ne sais plus combien, 70%, on va dire, 75% de l'électricité française. C'est une utilisation positive de l'énergie nucléaire. On peut en faire des bombes atomiques. Internet, c'est pareil. C'est un outil. C'est ni bon ni mauvais. À partir de là, vous avez des gens qui en font des choses merveilleuses. Puis vous avez des gens... en tire des choses très négatives. Et donc, la cybercriminalité, elle existe dans Internet comme elle existe dans le monde réel, ni plus ni moins. Donc, effectivement, il faut une police qui s'y connaisse, qui s'y retrouve. Mais je pense que maintenant, je crois que les services, entre guillemets, de police de la DST ou des RG sur Internet, c'est plus d'une centaine ou 200 personnes là, qui sont des spécialistes, qui s'y mettent. J'ai envie de dire... La police s'adapte à son métier. Et Internet, voilà, il n'y a pas plus de cas délictueux qu'ailleurs. Hein. C'est juste une transposition de ce qu'on voit dans l'économie et dans le monde réel.
Non, parce que ça suscite de l'inquiétude chez un certain nombre de personnes.
Il y a l'inquiétude sur le numéro de carte bleue, la fraude au numéro de carte bleue, mais elle n'est pas beaucoup plus importante sur Internet qu'ailleurs. Je pense que l'inquiétude, elle vient de la non-maîtrise plus. Hein. Je pense que c'est un monde complexe à appréhender, donc on est inquiet parce que quand ça ne marche pas, on n'arrive pas à faire marcher, on se dit, c'est pas pour moi. Je pense qu'elle est plus, c'est plus la barrière psychologique qui freine les gens. Je pense pas que c'est la peur, la cybercriminalité qui est pas plus importante qu'ailleurs.
Alors pour revenir et conclure sur votre livre, qu'en avez-vous fait de ce livre? Est-ce que vous l'avez soumis à plusieurs personnes, à plusieurs autorités?
Oui.
Et si oui, avez-vous eu des retours?
Oui, tout à fait. Déjà, on l'a soumis aux trois principaux candidats à l'élection présidentielle, qui étaient M. Bayrou, M. Sarkozy et Mme Royal, qui ont repris entre 9 et 15 sur 15 mesures dans leur programme à eux. Donc c'était quelque chose de positif. Maintenant que l'un des trois candidats a gagné, on a des réunions régulières, une fois par mois, pour faire avancer ces mesures. Parce que ce qu'on propose dans ces 15 mesures sont des mesures extrêmement concrètes. Hein. Je veux dire, la donation d'un PC à un salarié, tout bête, mais... Chaque année, vous avez 1,5 million de PC qui partent dans les déchetteries. 1,5 million de PC. Parce que les entreprises n'ont pas le droit de les donner à des salariés pour des raisons fiscales, des raisons URSSAF, d'avantages en nature, ou simplement des raisons administratives, puisque c'est compliqué à donner. Il faut faire un acte de cession, il faut faire une facture. Et le directeur administratif et financier d'une entreprise n'a pas envie de le faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? 1,5 million de PC à la poubelle, dans les déchetteries. Un, ça pollue. Deux, un PC, il est amorti au bout de 3 ans. Donc, un PC, il n'a plus de valeur dans une entreprise. Au bout de 3 ans, il est renouvelé bien souvent. Et donc, au bout de 3 ans, un PC peut encore servir. Un PC de 3 ans permet une navigation très correcte sur Internet. Et donc, l'idée, c'est de modifier tout bêtement le code général des impôts, le code de la sécurité sociale pour la partie URSSAF. Et donc, c'est un projet d'amendement dans la loi de finances 2008. Donc voilà, on travaille justement sur comment faire en sorte que, et comment mettre ce type d'amendement dans la loi de finances 2008. Ça, c'est une des 15 mesures, hein, mais pour vous donner un exemple concret, et on rencontre les autorités compétentes, hein, à savoir Bercy et les conseillers technologies du président de la République.
D'accord.
Donc on est très actifs.
On
se bat jusqu'au bout, pour notre cause, pas uniquement en théorie. On essaie d'appliquer les 15 mesures concrètes qu'on a proposées.
Oui, qui sont certaines mesures sont, même la plupart, sont très généreuses. Effectivement, il faudrait, ne serait-ce que pour la diffusion du savoir, que de l'étudiant au retraité, Internet soit disponible et disponible en plus grand accès dans des lieux publics. Là-dessus, sur l'accès dans les lieux publics, vous avez aussi des avancées?
Alors, sur l'accès dans les lieux publics, pour l'instant, non. On se bat plus sur la formation, j'allais dire, à tous les niveaux, comme vous dites. Actuellement, dans les écoles, les PC, lorsqu'il y en a, ont 7 ans d'âge, en moyenne, dans les écoles primaires, par exemple. Donc, personne ne les utilise, les enfants ne les utilisent pas. Alors, il y a un cadre législatif qui a été fait, donc il y a des avancées très positives, qui sont le B2I et le C2I, qui sont des diplômes. C2I, c'est un diplôme universitaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer en troisième année de faculté si on n'a pas obtenu son B2I, donc son diplôme informatique. Et puis maintenant, à partir de cette année, je crois que dans le brevet des collèges, il y a une note informatique qui est incluse. Et puis, normalement, à partir du CE2, je crois, du deuxième cycle du primaire, aussi des connaissances à valider et à acquérir. Ça, c'est la loi. Alors, qu'est-ce qui se passe en pratique? J'allais dire, c'est très variable. Les choses commencent à bouger, mais lentement. C'est-à-dire que nous, on se bat parce que justement ce cadre législatif qui existe, donc il n'y a pas besoin de le créer, qui est positif, c'est-à-dire que la France a fait ce qu'il fallait, je pense, pour, j'allais dire, former au numérique les générations à venir. France a juste appliqué un petit peu plus cette loi, c'est-à-dire que on apprend à lire et à écrire en CE1, CE2, j'y arrive. On doit apprendre aux gens à utiliser Internet dès le CE2, donc c'est ce qui est prévu par la loi. Il faut juste maintenant que les professeurs qui n'ont pas forcément envie, qui n'ont pas forcément les moyens non plus, parce qu'ils n'ont pas les PC, qu'on puisse mettre en œuvre ça, parce que j'ai envie de dire, c'est aussi important de savoir maîtriser Internet et ses différents usages que de savoir lire et écrire. Alors, je ne dis pas que c'est plus important, je dis que c'est aussi important, et pour nos enfants, même pour les gens qui sont dans l'économie actuelle, c'est vital.
Ce n'est pas une fin, mais un moyen.
Un moyen.
Vital,
effectivement. Oui, tout à fait.
Toute dernière question. Dans votre livre, le dernier point que vous abordez, c'est de préserver l'espace de liberté qu'est Internet. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Disons que sur Internet, c'est un formidable outil où chacun peut s'exprimer. Donc, c'est un outil pour la démocratie. Donc, on pense que c'est quelque chose d'important à ce titre-là. Et la liberté de s'exprimer, c'est la possibilité, j'allais dire, comme c'est un peu l'équivalent de la loi sur la presse qui est de 1881, c'est la possibilité de s'exprimer dans le cadre, j'allais dire, d'un certain nombre de règles. Et on apprend en ce moment ces règles, c'est-à-dire que tout le monde ne maîtrise pas encore ces règles. Donc il y a des excès de liberté d'expression qui, en 1881, dans la loi sur la presse, avaient été, c'est ce qu'on appelle la diffamation, l'injure, enfin ce sont des délits instaurés par cette loi de 1881. Donc on est en train de faire cette réflexion sur quoi la liberté d'expression sur Internet, jusqu'où on peut aller, à partir de quel moment on a un abus de réflexion sur Internet. Donc c'est finaliser cette réflexion, l'affiner pour faire en sorte que Internet reste un outil au service de la démocratie.
Merci beaucoup François-Xavier Husser. Merci. Je rappelle les références de votre livre qui sont également disponibles sur notre site. 2010, l'Internet pour tous, 15 remèdes pour réduire la fracture numérique en France. Merci beaucoup d'être venu dans notre studio. Bonne journée, bon courage.
Merci. Thank you.